Bonjour, je suis Michel Hilaire, directeur du musée Fabre de Montpellier Agglomération et je vous accueille aujourd'hui dans l'exposition Corps et Ombres, le Caravage et le Caravagisme européen qui vient d'ouvrir ses portes et qui va durer tout l'été ici à Montpellier et qui se terminera le 14 octobre prochain. Alors, dans la première salle, il y a plusieurs toiles célébrissimes de Caravage, comme par exemple l'Extase de Saint-François, qui est un tableau qui vient du musée de Hartford aux États-Unis. Il y a l'affiche de l'exposition, Le jeune garçon mordu par un lézard, qui provient de la fondation Longhi à Florence. Et surtout, le sacrifice d'Isaac, qui est conservé au musée des Offices à Florence, qui est une des toiles les plus célèbres de Caravage et qui a été exceptionnellement prêtée par ce musée pendant tout l'été. Ici, nous nous trouvons devant le sacrifice d'Isaac de Caravage. C'est un tableau de la maturité de Caravage. Le Caravage a à peu près 30-32 ans quand il fait cette toile. Et c'est une toile vraiment impressionnante par sa puissance d'évocation, par le réalisme des figures, par la qualité du clair-obscur et de l'éclairage. C'est un tableau qui a gardé vraiment toute sa matière, tous ses glacis, et surtout qui offre un paysage, ce qui est rare dans la carrière de Caravage, puisque c'est souvent des fonds neutres, des fonds sombres, et là il y a une très belle échappée sur un paysage extrêmement vivant, avec une touche très légère, qui annonce même déjà l'impressionnisme. Et avec surtout le côté très dramatique hein, de ce sacrifice qui va avoir lieu avec Isaac au premier plan qui crie son désespoir au spectateur et on sait que c'est un jeune modèle de l'atelier de Caravage qui s'appelait Francesco Boneri et qui était natif de la même région d'Italie que lui, c'est-à-dire la Lombardie et qui se trouvait dans son atelier et qui a posé pour cet Isaac inoubliable avec la bouche ouverte là au premier plan de la composition et surtout l'ange qui vient stopper le bras d'Abraham qui tient ce couteau terrible et à la lame affûtée là au premier plan et qui scintille dans la lumière. La lumière fait saillir les figures sur le devant du tableau, donne une qualité très cinématographique au tableau avec des cadrages très rapprochés à mi-corps hein, qui évoquent d'ailleurs les plans américains du cinéma. Et surtout, il y a une volonté chez Caravage d'actualiser l'épisode sacré, donc d'actualiser l'histoire sacrée, l'historia sacra comme on disait à l'époque, qui mélange un petit peu les faits réels de la vie avec l'histoire sacrée. C'est-à-dire qu'en fait, il relie directement les textes de l'Évangile et, ou de l'Ancien Testament et il veut en donner une version tout à fait inédite et personnelle de ce sujet. Et surtout, Caravage cherche avant tout à happer, à séduire la sensibilité du spectateur. Alors, il y arrive d'abord par le cadrage, par, comme je vous l'ai dit, la qualité de la lumière, mais surtout par le rendu réaliste de certains détails. Alors, dans ce tableau, par exemple, on voit qu'il a rendu des détails frappants comme la lame de ce couteau, le manche de ce couteau avec le petit clou dans le manche, la main, les chevelures aussi des figures, le rendu des cornes du bélier là qui sont absolument criantes de vérité et même le mamelon raidi par le froid là au premier plan sur la poitrine d'Isaac là qui est un détail imperceptible mais tout à fait vrai et donc finement observé. Et il s'inscrit dans la volonté de rendre les tableaux plus lisibles pour le croyant, enfin pour le spectateur de son époque. C'est-à-dire qu'il s'écarte des artifices du maniérisme et qu'il revient toujours à la vérité première, à une grande simplicité de la composition, à une vérité des modèles à travers l'utilisation de modèles vivants et surtout toucher la sensibilité et l'émotion. C'est-à-dire vraiment presque attirer le spectateur dans la toile, comme si le spectateur était un des acteurs, un des témoins et privilégié de la scène.
Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur le choix des couleurs de ce tableau, la palette de couleurs qui est entre autres très caractéristique de Caravage? On parle d'une palette terreuse.
Effectivement, il y a souvent une palette terreuse. En tout cas, chez Caravage, il y a la volonté de réduire la palette à son minimum d'expression. C'est-à-dire qu'il refuse toutes les couleurs arbitraires, les couleurs artificielles du maniérisme. Il n'aime pas du tout les couleurs décoratives, comme les orangés, les jaunes citrons, les rouges vifs. Il veut, au contraire, toucher au plus juste le spectateur et donc arriver à le happer à travers la psychologie avant tout des personnages. Et si l'œil est distrait par des couleurs fausses ou arbitraires, le spectateur sera donc détourné du message premier que le peintre souhaite communiquer au spectateur. On se trouve devant un tableau qui est extrêmement célèbre, hein. C'est un des tableaux les plus célèbres du caravagisme français vers 1620 à Rome, chez un grand peintre qui était vraiment une figure importante de la Rome de ces époques, Simon Vouet, qui était d'ailleurs soutenu par le roi de France, hein. Il avait une pension royale, ce qui lui donnait une place un petit peu privilégiée au sein de la communauté des peintres étrangers à Rome. Donc là, Vouet s'empare d'un sujet qui est éminemment caravagesque, puisque Caravage lui-même, dans sa jeunesse, avait traité le thème de la diseuse de Bonaventure, mais là, il en fait bien sûr un sujet plus ambitieux, puisqu'il rajoute deux figures. Caravage avait simplement deux figures, la gitane et un jeune homme élégant qui présentait sa main pour que la gitane puisse lui lire l'avenir, tandis qu'ici c'est une courtisane qui sourit presque un peu, de façon un peu complice d'ailleurs, au spectateur. Et finalement, pendant que la gitane est en train de lire les lignes de la main, elle est en train de lui dérober l'anneau qu'elle porte au doigt. Et pendant ce temps, il y a un plaisantin, un malin là, qui est en train de la dérober et de lui faucher quelque chose dans son sac. Il est en train de faire des jeux de mains, des jeux de mimique au personnage central avec une moustache qui a un regard un peu insistant et qui a vraiment une attitude extrêmement burlesque et caricaturale. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que ces sujets qui étaient très répandus à l'époque, hein, puisque Vouet n'est pas le seul à avoir traité le thème de la Bonaventure, en particulier l'un des plus grands peintres caravagesques français, c'est Valentin de Boulogne. Valentin de Boulogne a peint beaucoup ce sujet dans la lignée, dans la succession de Caravage, et aussi Manfredi, qui est un grand peintre italien de ce moment-là, qui était très proche des Français. Et en tout cas, ce sujet, il faut le replacer dans le contexte de l'époque, à Rome. Il était perçu comme un thème, finalement, qui dénonçait, d'une certaine façon, le fait de lire l'avenir, puisque l'Église, bien sûr, ne tolérait pas ces gitanes, puisque ces personnes ne pouvaient lire l'avenir hormis Dieu. L'Église catholique condamnait un tel sujet, et sans doute que Vouet ici essaye de dénoncer, sur le mode burlesque même, ou sur le mode ironique, cette gitane qui prétend lire l'avenir, hein, alors qu'en fait elle n'est même pas capable de se rendre compte du présent, puisque il y a ce voleur au premier plan à droite qui est en train, pendant qu'elle lit l'avenir, de la dérober elle-même. Dans ce tableau, on quitte progressivement l'univers clos, un peu statique et dramatique du caravagisme, pour glisser tout doucement vers une peinture plus séduisante, plus baroque. On a même parlé à ce moment-là, un petit peu après 1622, de caravagisme de séduction, tout simplement parce que les artistes finalement explorent d'autres moyens pour communiquer avec le spectateur, et en particulier au moyen de la couleur, au moyen du scintillement des matières, du jeu des mains. Là, c'est tout à fait caractéristique dans ce tableau. Il y a vraiment un théâtre des doigts, des mains, qui est tout à fait extraordinaire, un jeu de regard aussi, puisque là il y a un regard complice avec le spectateur, mais les figures se regardent aussi entre elles dans le tableau de manière extrêmement insistante. Donc tous ces traits finalement nous éloignent un petit peu progressivement du caravagisme, de Caravage lui-même, et rejoignent bien sûr une peinture plus baroque, plus théâtrale aussi, plus théâtrale, mais en tout cas extrêmement brillante. Et là vraiment on est en contact avec un des tableaux les plus séduisants de Simon Vouet, très célèbre aussi d'ailleurs, puisque voué vraiment l'un des grands peintres caravagesques avec son collègue français qui est Valentin de Boulogne. Et donc c'est une manière aussi de dire qu'il apporte sa touche personnelle, une touche peut-être plus séduisante aux formules qu'avait mis au point Caravage une vingtaine d'années plus tôt. Donc là on sent un caravagisme qui, 10 ans après la mort de Caravage, évolue rapidement et rejoint à travers le naturalisme certaines séductions de la couleur qui rapprochent plutôt à ce moment-là les peintres de la peinture de Venise.
On parle de caravagisme, de caravagesque, qui a donc eu une influence sur toute l'Europe, sur Simon Vouet, donc les Italiens, les Espagnols, etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait Caravage n'a pas eu de disciple à proprement parler en fait.
Caravage n'avait pas d'atelier, il n'avait pas d'élèves à proprement parler, même s'il a eu des compagnons d'atelier qui lui servaient un peu d'aide et qu'il a pu former tout simplement parce que ses jeunes compagnons l'observaient peindre, donc ils voyaient aussi sa technique. Et par exemple Francesco Boneri est devenu lui-même un très grand peintre caravagesque et sous le nom de Cecco del Caravaggio. C'est un très très grand peintre et un très grand suiveur de Caravage. Mais c'est vrai que Caravage a tellement renouvelé la peinture, a tellement renouvelé l'iconographie, a tellement révolutionné les arts que de nombreux peintres qui n'étaient d'ailleurs pas forcément à l'origine caravagesque se sont mis à épouser son style, à épouser sa manière. Et c'est comme ça qu'il a fécondé l'art, non seulement en Italie, mais en Europe, pendant la première moitié du XVIIe siècle.
Oui, une partie du phénomène que vous décrivez, c'est ce qu'on appelle la tentation caravagesque. Mais en dehors de ça, j'ai l'impression que parmi les peintres qui ont été inspirés par Caravage, il n'y a pas d'anglais. Est-ce que vous avez observé la même chose et est-ce que vous auriez peut-être une explication à ce sujet ?
Il n'y a effectivement pas d'anglais. Le voyage en Italie des Anglais est un phénomène qui se développe de façon massive un peu plus tard, au XVIIIe siècle et bien sûr au XIXe siècle. À ce moment-là, effectivement, il y a plutôt des amateurs, des gentlemen, des érudits, des collectionneurs aussi, qui se déplacent plutôt dans la péninsule plutôt que des peintres qui se mettent à l'école de Caravage. Là, c'est un phénomène qui est vraiment lié aux Flamands, à Rubens, qui est le plus grand peintre flamand du XVIIe siècle, hein, qui va séjourner en Italie et qui va lui-même être inspiré par Caravage et regarder Caravage, et puis l'école d'Utrecht. Là, on est dans la période Naples et l'Espagne, dans la section Naples et l'Espagne de l'exposition, et c'est vraiment une section qui me tenait à cœur, puisque, comme vous savez, Caravage a fait 2 séjours à Naples, après aussi avoir voyagé à Malte et en Sicile, et ces 2 séjours ont vraiment bouleversé en profondeur la scène napolitaine, qui était encore marquée par les derniers feux d'une peinture plus conventionnelle, plus maniériste, et au contraire, ce naturalisme caravagesque, la pittura naturale, et comme on disait à l'époque, a vraiment bouleversé les codes, et les artistes se sont mis à utiliser des modèles vivants, à surtout utiliser une lumière directionnelle qui fait vraiment saillir les figures au premier plan de la composition. Et à travers cet échange entre la péninsule italienne et la péninsule ibérique, et surtout par le fait que Naples était sous domination espagnole. Il y avait un vice-roi d'Espagne à Naples, et les vice-rois ont expédié ou ramené dans leur bagage des originaux de Caravage ou des peintres caravagesques, et des peintres espagnols, même comme Ribera, qui était installé à Naples, ont pu envoyer des tableaux en Espagne, et du coup féconder la scène espagnole. C'est sans doute ce qui s'est produit à Séville, hein, puisque des tableaux de Ribera ont pu être connus par le jeune Velázquez. C'est le cas d'ailleurs du tableau magnifique qui figure dans l'exposition, qui est le Saint Thomas, l'apôtre Saint Thomas de Velázquez, et qui provient du musée d'Orléans, qui est un magnifique tableau de la jeunesse de Velázquez, qui date des années 1618. Mais ce Saint Sérapion, lui, montre vraiment la grande leçon du caravagisme dans le domaine espagnol, chez un artiste qui n'a pas connu Caravage, qui n'a pas connu l'Italie, mais qui, au contraire, a peint ce tableau en 1628 pour un couvent, le couvent de la Merci à Séville, et qui montre ce saint avec une vérité et une émotion qui rappelle bien sûr Caravage, aussi par sa lumière, hein, cette lumière directionnelle, et surtout la puissance du volume de la figure avec ce magnifique habit, avec ses plis profonds, qui rappelle bien sûr l'art dramatique de Caravage lui-même, avec l'évocation de ce saint qui est un véritable hommage au Christ, hein, puisqu'on le voit ici lié par les poignets dans une position un peu christique, et c'était donc un sujet de méditation pour les moines à l'époque, qui bien sûr avaient, à travers la figure de Sérapion, qui avait offert sa vie au XIIIe siècle pour libérer des prisonniers à Alger, donc il avait offert sa vie pour libérer des prisonniers chrétiens, et bien il était bien sûr un Christ rené, un Christ redivivus, puisque le Christ lui-même bien sûr a offert sa vie pour sauver l'humanité. Donc c'était vraiment un objet de piété, un objet de méditation pour les moines de l'époque, et c'est sans doute un des plus beaux témoignages de l'art de Zurbarán dans sa jeunesse.
Ce qui caractérise aussi ce saint Sérapion selon Francisco de Zurbarán, c'est ce dualisme dans les couleurs, qui sont ce ténébrisme noir et le vêtement blanc que porte le saint au premier plan, et ça crée immédiatement cette austérité qui est propre au caravagisme et à Caravage également.
Tout à fait, c'est vrai que c'est un tableau qui, de l'autre côté de la Méditerranée, fait écho à la révolution caravagesque, et c'est un tableau qui est presque aussi, qui est même aussi puissant que Caravage. Et donc je pense que le caravagisme est quelque chose qui bien sûr est presque inimitable. Le caravagisme, c'est aussi lié à Caravage lui-même. À partir du moment où Caravage n'avait pas vraiment d'élèves, n'avait pas d'atelier et est mort en 1610, tous les suiveurs, tous les gens qui se sont mis à imiter sa manière, amenaient leur propre sensibilité, leur propre culture, et on voit dans cette exposition renaître de décennie en décennie cette forme du caravagisme. Il y a une façon de réinterpréter la grande leçon de Caravage, mais c'est vraiment Caravage lui-même qui en Europe a remis l'homme, a remis le drame humain, a remis la vérité au centre de la peinture. Et c'est vrai que Zurbarán, là, se rapproche au plus près de la leçon de Caravage par son sens de l'humanité, par son sens de la spiritualité, et surtout par le dépouillement des procédés picturaux et par la monumentalité de la forme qui frappe d'emblée le regard du spectateur.
Il y a aussi un petit détail que l'on peut voir sur ce tableau, enfin ce n'est pas un petit détail, mais quand même, c'est cette croix qui est à peu près au centre du tableau, cette croix sur cette espèce de fond rouge, c'est un objet. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'elle signifie, qu'est-ce que c'est ?
C'est un emblème simplement de l'ordre religieux auquel appartenait Sérapion, qui était un croisé, un moine anglais, qui s'était mis au service du roi espagnol à ce moment-là, pour au moment de la reconquête, hein, la reconquête de l'Espagne. Donc c'est un saint qui est finalement peu connu, hein, à part dans ce tableau de Zurbarán. C'est un saint qui est représenté, comme je vous l'ai dit, en relation avec le Christ, et Zurbarán a évité, comme souvent d'ailleurs dans ses tableaux, de représenter vraiment l'acte le plus sanglant, le plus dramatique, ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse plutôt, c'est la méditation profonde, la spiritualité, et on sait par exemple que Sérapion avait été tué dans des conditions extrêmement tragiques, hein, décapité, éviscéré, mais là c'est pas du tout le propos de Zurbarán, c'est plutôt en faire un Christ souffrant, mais finalement apaisé pour se livrer à la méditation du moine et bien sûr aujourd'hui du spectateur de l'exposition.
Zéphiro, Zéphiro, Zéphiro.
Donc là, on est dans la salle finale de l'exposition, qui est la salle Georges de la Tour, qui est une salle tout à fait exceptionnelle, qui réunit 7 chefs-d'œuvre parmi les plus connus de Georges de la Tour, qui est ce peintre français, peintre monumental, peintre immense, qui a été redécouvert au XXe siècle, un peu d'ailleurs comme Caravage, hein, une quarantaine de tableaux à travers le monde. Et là, il y a 7 chefs-d'œuvre, et en particulier le nouveau-né de Georges de la Tour, qui est sans doute une icône de l'art français, un tableau célébrissime, qui montre le nouveau-né. Vers la fin de la carrière de Georges de la Tour et surtout avec une simplification des moyens tout à fait stupéfiante et surtout la grande leçon de Caravage, la perdure en Lorraine finalement 30 ans ou 35 ans après la mort de Caravage, parce que ce tableau peut être lu de deux façons différentes, soit une simple maternité avec son poids d'humanité extraordinaire, hein, devant le mystère de la vie, avec cette jeune mère qui est presque absente, avec un visage très pur et qui regarde et qui contemple son enfant avec sa mère. Donc il y a l'enfant, la mère et la grand-mère qui abrite sa main, qui pose sa main devant une bougie, hein, cette bougie qui donne un éclairage rougeoyant à toute la scène, hein. C'est un tableau pratiquement monochrome dans une gamme de rouge avec juste un peu de jaune citronné sur le bonnet de l'enfant. Donc c'est presque un tableau d'une richesse colorée et d'une économie de moyens tout à fait extraordinaire. Grande géométrie au niveau des formes, c'est presque des formes cubiques, hein, cubistes, qui annoncent tout l'art moderne. Mais comme chez Caravage, ce tableau aussi peut être lu de façon autre, c'est-à-dire avec la dimension sacrée dans le tableau. Bien sûr, ce nouveau-né, cet émerveillement devant la vie, peut être aussi simplement représenté à travers le Christ simplement, qui est la lumière du monde. Donc c'est l'enfant né qui vient pour sauver l'humanité, avec sa mère, la Vierge, bien sûr, et Sainte Anne. Donc c'est un tableau à double lecture, une profane, qui touche bien sûr la sensibilité du spectateur d'aujourd'hui, et l'autre sacrée. En tout cas, c'est un des chefs-d'œuvre de Georges de la Tour, un des plus beaux tableaux des collections publiques françaises, et qui a été très généreusement prêté, je dois dire, par le Musée des Beaux-Arts de Rennes, puisque vous doutez bien que c'est la Joconde du Musée des Beaux-Arts de Rennes, et qui est présente ici pendant 3 mois à Montpellier.
C'est un tableau très célèbre, surtout aussi parce qu'il met en œuvre un procédé pictural très connu, qui est celui du clair-obscur, et de manière très, très savante.
De manière très savante, et c'est vrai que l'éclairage à la bougie, l'éclairage artificiel a été finalement peu traité par Caravage lui-même, voire pas du tout traité. Et là, c'est vrai que cette leçon de l'éclairage artificiel a sans doute été communiquée par Georges de la Tour, par d'autres Lorrains qui ont séjourné à Rome, comme Leclerc en particulier. Il y avait une communauté de peintres Lorrains très active à Rome, qui était d'ailleurs soutenue par le duc de Lorraine. Et cet éclairage artificiel est un procédé qui a été fortement développé par les Nordiques. Les Nordiques que Georges de la Tour a dû connaître, l'école d'Utrecht, et en particulier Antorst, qui est représenté avec des chefs-d'œuvre dans l'exposition de Toulouse, et qui était célèbre à Rome pour ses éclairages artificiels, à tel point d'ailleurs qu'on l'avait surnommé Gherardo delle Notti, Gérard de la Nuit, hein, tellement il était célèbre pour ses éclairages artificiels. Et c'est vrai que là, on voit la tour finalement au carrefour du caravagisme européen, aussi bien italien que nordique, et la Lorraine a vraiment joué comme un centre artistique ouvert sur les tendances les plus avancées, les plus modernes en Europe à ce moment-là. Et donc il y a toujours la question de savoir si la tour est allée à Rome ou pas, donc c'est une question qui taraude les historiens d'art depuis 50 ans, mais même s'il n'est pas allé en Lombardie ou s'il n'est pas allé à Rome, il a pu rencontrer le caravagisme, être en contact avec les tendances les plus novatrices du caravagisme à travers les voyages d'artistes, en particulier de l'école d'Utrecht, et les Lorrains eux-mêmes qui avaient ramené de Rome des tableaux naturalistes, comme on pourrait dire, en tout cas de la pittorale naturelle, et donc la tour avait une forte connaissance du caravagisme à son époque, et c'est donc un artiste qui a aussi repris beaucoup de thèmes propres du caravagisme, comme les diseuses de Bonaventure, comme les tricheurs, comme les reniements de Saint-Pierre, comme tous ces thèmes, ou Saint-Irène, enfin vraiment, ou les Madeleines, a fortiori, puisque Caravage lui-même, dans sa jeunesse, a traité ce sujet, et on voit vraiment dans l'œuvre de la tour, jusqu'à une date tardive, énormément de sujets qui sont parmi les plus populaires du caravagisme européen.